le centre d'action médico-sociale précoce dans ses nouveaux locaux à Digne.
Très exactement dans l'ancienne maternité de l'hôpital de Digne. C'est là que le CANSP a inauguré sa nouvelle installation. En présence de Bruno Villaron, président du conseil de surveillance, de Jean-Pierre Sacco, qui préside la commission médicale d'établissement, et du directeur général, Joël Bouffiès. Précédemment, ce service se trouvait dans un lieu bien trop exigu et l'ouverture de ces nouveaux locaux est une bouffée d'oxygène pour les patients, mais également pour le personnel qui s'occupe de ces enfants qui sont malades et dont bon nombre d'entre nous ne soupçonnent pas l'existence. La pédopsychiatrie n'est pas nouvelle, les enfants qui souffrent de troubles sont nombreux et le fait qu'un service puisse travailler dans de meilleures conditions n'est pas superflu. Joël Bouffiès essaie de redonner ses lettres de noblesse à l'hôpital à la volonté de servir au mieux ses enfants qui, dès leur plus jeune âge, sont confrontés au regard d'une société qui n'admet pas forcément les différences. Pour diriger ce service, le docteur Pascal Quenette sait que la tâche n'est pas facile et parfois l'absence, voire l'abandon des parents complique le tout. Le personnel qui l'entoure est qualifié et l'aide du chien, Ben, est là aussi pour rappeler que toute méthode d'aide à la guérison ou aux soins est prise en compte. Je vous propose d'écouter tous ces acteurs. Ils répondent aux questions de Jean-Marc Leca.
Monsieur Bouffier, soignez la pédopsychiatrie à Digne pour l'hôpital.
La pédopsychiatrie, elle évolue. On le voit aujourd'hui avec l'inauguration de ce CAMP, c'est un centre d'action médico-sociale précoce. C'était un dossier important qu'on a traité depuis de nombreuses années avec une évolution de l'équipe. Aujourd'hui, une équipe pluridisciplinaire, des psychologues, des psychomotriciens, des neuropsychologues, des pédopsychiatres, des médecins donc de toute qualification auprès des enfants. Une belle équipe, pour cette belle équipe, il fallait de beaux locaux. C'est fait aujourd'hui avec cette nouvelle réalisation. Donc en plus, dans un endroit très adapté, au cœur de la ville, avec des locaux spacieux, éclairés, avec du mobilier adapté aux enfants, et puis proche de la pédopsie. Donc la pédopsie aujourd'hui, qui est sur un grand territoire, la pédopsie de notre hôpital, qui couvre un grand territoire, avait besoin d'une structure comme celle-là, que cette structure soit redynamisée. Donc voilà, c'est important. L'hôpital de Digne, il fonctionne sur ses deux pieds, à la fois le somatique, l'hôpital effectivement médical, et puis également, bien sûr, l'hôpital psychiatrique.
Et quelles sont les nouvelles structures par rapport à l'hôpital ?
Alors, par rapport aux anciens locaux, d'abord, c'est beaucoup plus d'espace. Ça permet de développer des projets autour, bien sûr, de la petite enfance, du dépistage et du traitement donc des maladies de la petite enfance, comme l'autisme. J'ai pu visiter les locaux et j'ai vu qu'il y avait, à chaque salle correspondait des activités basées, effectivement, à la fois sur l'aspect médical, paramédical, mais également l'aspect ludique avec des objets qui permettent à l'enfant, effectivement, de s'exprimer et surtout de se rassurer. Et même un chien, vous avez vu, un chien qui sert de médiation, qui est là pour apaiser, pour calmer, pour rassurer l'enfant. On va développer, vous avez vu que le médecin chef, donc le docteur Quenette, vous a donc parlé du nouveau projet qui est aujourd'hui donc sur le bureau de la direction. Ce nouveau projet, effectivement, dans des nouveaux locaux, permet effectivement de développer de multiples activités, ce qui n'aurait pas été possible dans l'ancienne structure.
Et vous parliez de ludique, là, dans les salles que vous proposez, il y a beaucoup de choses qui peuvent éveiller les enfants, il y a beaucoup de confort aussi.
Le but de ces locaux, bien évidemment, c'est de prendre en charge, de dépister, d'accompagner. Mais les locaux, là, on voit que ils ont tout leur sens, toute leur importance, de par l'aménagement. Vous avez vu les couleurs, ce sont des couleurs qui sont agréables pour l'enfant, des couleurs à la fois, je dirais, un peu, oui, ludiques, des couleurs, mais pas trop éteintes non plus, de manière à ce que ça apaise plutôt que ça excite. Mais également des aménagements, des tables à leur hauteur, des chaises à leur hauteur, des fauteuils, des jouets. Tout ça, effectivement, c'était rendu possible par les moyens qui ont été mis dans les équipements et puis, encore une fois, par la configuration des locaux.
Et l'autisme chez les enfants, sur Digne, ça représente combien de personnes ?
Là, je n'ai pas le chiffre en tête. Par contre, je peux vous dire que je me suis fait encore confirmer par le médecin-chef 120 la file active sur un territoire qui, vous connaissez, ce territoire d'environ 50 à 60 000 habitants. 120 enfants suivis et 500 enfants en dépistage, enfin un suivi moins intense. Donc c'est quand même tout à fait important. Et ça montre, bien que sur un territoire qui est le nôtre, qui est moins peuplé peut-être que d'autres territoires, il y a des problématiques, effectivement, de pathologie du premier âge qu'il faut dépister très vite et traiter. Et quand on les traite, et qu'on les prend en charge très vite, y compris l'autisme, qui est, comme vous le savez, une cause nationale. Et c'est d'ailleurs par le biais de cette cause nationale qu'on a pu obtenir aussi des moyens. Y compris dans ce domaine-là, on arrive à faire des progrès. Donc c'est tout à fait important.
Et pensez-vous que les Dinois, les habitants du pays dinois, connaissent ce traumatisme qu'est l'autisme ?
peut-être pas, c'est méconnu. On a une vision parfois de l'autisme un peu caricaturale, n'est-ce pas? C'est l'enfant un peu replié sur lui-même, fermé, caractériel, etc. Et je crois que justement, par votre biais aussi, par le biais du travail qui est fait aussi, parce que c'est une structure qui est ouverte sur la vie, qui travaille avec les associations, qui travaille avec les institutions, l'éducation nationale, par exemple, avec l'ADAPI, l'association de l'ADAPI. Donc, par le biais de partenaires, il faut faire connaître effectivement ce que sont ces maladies et comment on peut les prendre en charge. Aujourd'hui, de plus en plus de parents, avant les parents étaient isolés, un peu seuls face à ces problèmes, j'allais dire presque honteux parfois, même parce que en difficulté, quoi. Clairement, aujourd'hui, ils savent qu'ils ont un endroit où on peut les écouter, les entendre et les aider à prendre en charge cette problématique. Donc, c'est important que vous le fassiez savoir et qu'on le dise.
Madame Quenette, comment est dépisté l'autisme chez les enfants?
Alors, il y a plusieurs échelles d'évaluation qui se font donc dans des centres de référence, notamment sur Marseille, un centre de référence autisme et un basé dans la région PACA sur Nice. Actuellement, on a développé une plateforme autisme qu'on appelle de niveau 2, donc des cas qui ne sont pas très compliqués, pour décharger un petit peu le CRA de Marseille et de Nice où la liste d'attente est très très longue. Ce qui veut dire de niveau 2 qui a lieu sur Manosque. Nous travaillons essentiellement avec une de nos psychologues qui est formée aux échelles d'évaluation, qui sont standardisées, hein, qui viennent des CRA, donc on a les mêmes échelles. Cette psychologue s'occupe de l'évaluation et ensuite de la prise en charge avec l'équipe pluridisciplinaire du CAMS.
Il y a une échelle de combien d'échelons?
Alors, c'est des échelles de métriques avec participation des parents et d'autres sans parents. C'est assez complexe, difficile à expliquer. La plus connue, je dirais, c'est la DOS, hein, qui est très performante. Une échelle d'évaluation très spécifique au diagnostic des troubles envahissants du développement.
Et au niveau du personnel, combien de personnes travaillent avec vous?
Nous sommes 14 personnes de tous champs. Hein. Vous avez vu une orthophoniste, une péricultrice, deux psychologues, des psychomotriciens, une assistante sociale, un éducateur spécialisé, puis après tout le cadre administratif.
Même Ben le chien.
Et Ben le chien, lui, fait partie de la médiation animale. C'est un projet notamment par rapport aux troubles envahissants du développement et l'autisme. Il sert de médiateur et de lien, de communication non verbale justement pour ces enfants.
Comment communique un enfant avec un chien?
Alors, la communication gestuelle, il peut avoir tout simplement de l'affection. Un enfant qui le voit, ils ont un mode de communication différent, ils se comprennent. C'est ce qu'on appelle l'éthologie, étude du comportement animal et humain. Ça peut ne pas marcher, hein. Il y a des enfants qui ont peur des chiens, mais si l'enfant est en confiance, il va jouer avec le chien, alors qu'habituellement il ne joue pas. Il va avoir des gestes de caresse, communication non verbale chez les autistes.
Et un enfant qui est atteint d'autisme, à quel moment sentez-vous qu'il n'a plus besoin de vous?
Très bonne question. Nous, on les suit, les enfants, le plus précocement possible, donc de 0 à 6 ans. À 6 ans, ils ont encore besoin de prise en charge. C'est une prise en charge très, très longue et très difficile pour les familles. Tout enfant autiste, quel que soit le niveau, hein, parce qu'il y a des autistes de haut niveau qu'on appelle les Asperger, parce qu'ils sont différents des autres. Il faut apprendre à les connaître.